Bonsoir, vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu ni maître ni publicité, c'est jeudi noir qui commence. Donc pour une émission consacrée à un livre qui est sorti très très récemment chez Agone, qui est écrit par Kianga Yamata Taylor, c'est une chercheuse et une militante afro-américaine. Le livre s'intitule Black Lives Matter, le renouveau de la révolte noire américaine, ça c'est la traduction française. Et voilà, avec Jean-Mathias, on a trouvé que c'était une publication vraiment valable par les temps qui courent. Alors après, on pourrait se poser la question de savoir comment est-ce qu'on pourrait l'importer dans le contexte français, parce qu'il y a le contexte américain est assez différent, même s'il y a des points communs. Sinon là, en termes de musique, vous venez d'entendre, c'est José qui a fait, je crois, un mix entre donc un morceau de Birds, Black Lives Matter, et puis un sample d'une ça on doit les comment dire on doit la bande son à Clément Petitjean qui est un sociologue qui a été étudié justement qui a été accompagné du mouvement Black Lives Matter là-bas et qui avait fait une vidéo assez épatante d'un regroupement justement de ces militants qui s'était réuni à l'occasion d'une réunion organisée par la police américaine de Chicago ou de Détroit, je ne sais plus. Et dans cette réunion, la police est censée rendre compte de son action auprès de la communauté. Et là, les militants de Black Lives Matter, en fait, se sont démerdés pour rendre la réunion impossible. Simplement en refusant de jouer le jeu de la communication et en rappelant uniquement les gens qui avaient été tués par la police de cette localité, par la police américaine de cette localité. Et donc on trouvait que c'était un document surpuissant quoi. Et voilà, on s'est dit on a ripé la bande son et voilà, donc je remercie Clément parce que il nous a refourni la vidéo. Alors, moi, je voulais commencer peut-être justement en disant que Black Lives Matter a eu souvent mauvaise presse en France.
Bah, d'abord, on peut peut-être rappeler ce que c'est, auprès des auditeurs. Oui. Parce que là, les textes là qui sont traduits et publiés chez Agone, ils ont déjà 2-3 ans. Hein. Mmh. Ils sont sortis aux États-Unis il y a 2-3 ans. Et en fait, c'est une analyse un peu d'ensemble qui fait suite à un mouvement social hyper fort, politique. Et hyper politique aux États-Unis, qui s'est intitulé justement Black Lives Matter, et qui
donc, les vies noires comptent.
Les vies noires comptent, et qui est parti de la suite de meurtres policiers à Ferguson, aux États-Unis.
De Mike Brown.
Voilà.
Type qui marchait dans la rue, qui a vu les policiers, qui a essayé de les éviter. Ils l'ont chopé, ils l'ont mis dans un fourgon de police, et il est sorti 45 minutes avec la trachée écrasée, la colonne vertébrale cassée, la moelle épinière sectionnée, et il est mort des suites de ses blessures. Et ensuite, comme dit à un moment Kyanga Yamata Taylor, la police américaine a fait preuve de son incapacité totale à arrêter de tuer des noirs.
Mais ce qui est intéressant, c'est de voir, c'est que ces textes-là, en fait, c'est des textes qui nous viennent de l'ancien monde, c'est-à-dire d'un monde d'avant Trump.
Oui.
C'est-à-dire qu'ils ont été rédigés sous la présidence Obama. Oui. Le mouvement Black Lives Matter, il s'est développé et il a explosé sous la présidence Obama contre les violences policières racistes et de manière plus générale sur la question du racisme américain. Il a connu un développement très important, c'est-à-dire qu'il a mobilisé des milliers, des dizaines de milliers de personnes dans de nombreuses villes américaines. Alors, toujours à partir souvent de la violence policière, mais il a rapidement posé des questions bien au-delà. Et en fait, il a signé d'une certaine manière, c'est peut-être avec ce mouvement-là qu'apparaît de manière la plus flagrante l'échec d'Obama. Hein. L'échec d'Obama, il n'est peut-être pas d'ailleurs sans rapport avec son échec, avec l'échec des démocrates au présidentiel qu'on suivit, parce que c'est toute le vernis progressiste, égalitaire et tout ce qui avait accompagné, tous les espoirs qui avaient accompagné effectivement la présidence d'Obama pour certains, enfin pour ceux qui l'avaient élu et puis au-delà des frontières américaines, qui d'une certaine manière s'est dissipé. Je veux dire, les deux gros coups de la présidence Obama, c'est le mouvement Occupy Wall Street et puis Black Lives Matter. Et peut-être particulièrement Black Lives Matter, parce que là, pour le coup, le fait que rien n'avait bougé d'une certaine manière pour le statut et les inégalités raciales aux États-Unis, là, est apparu éclaté en pleine lumière, et ça lui a sans doute coûté très très cher, coûté très très cher au camp démocrate au moment de l'élection qu'a porté Trump au pouvoir. Donc ça, c'est pour le contexte de publication qui est important, quand même, je crois.
Complètement.
Et effectivement, en même temps, je trouve que il y a 2-3 ans, donc c'est à la fois une distance par rapport à l'actualité récente, et en même temps je trouve que c'est le bon timing de publication de ces textes là parce que c'est pas simplement une histoire du mouvement social, ce qu'elle fait c'est vraiment une analyse assez brillante, moi je trouve, la question du racisme aux États-Unis et de la révolte noire, comme le sous-titre d'Agone là. En gros, depuis le mouvement des droits civiques, quoi. C'est-à-dire, depuis,
et même un peu avant.
Même un peu avant, parce qu'elle démarre. Alors, elle va vite là-dessus, parce que ça, c'est une histoire qui est déjà plus connue, l'histoire du mouvement des droits civiques, les Black Panthers, on en avait parlé ici même, il y a quelques temps. C'est une histoire qui est plus connue, mais elle part d'une certaine manière de cette espèce d'échec relatif du mouvement des droits civiques, en termes de résultats, en tout cas.
Ouais.
puisque finalement ce qui m'intéresse c'est le tournant Carter-Nixon et la manière dont finalement on va changer de paradigme. Ça, elle explique ça très bien au début.
Mais elle montre aussi comment le mouvement des droits civiques se fait piéger. Finalement,
par l'institutionnalisation, par la politisation, par le fait de passer par une voie légaliste, par les élections, le parti démocrate, etc.
Par l'accès aux municipalités.
Aux municipalités.
On a parlé aussi du municipalisme là en Espagne, mais là on pourrait rebondir là-dessus. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe quand on donne à des contestataires, finalement quand on laisse certains contestataires avoir une part de responsabilité dans la gestion de la débâcle. Ce qui s'est pas mal passé pour les élites noires américaines, qui sont finalement retrouvées à la tête de municipalités qui étaient en faillite et qui n'avaient absolument pas les moyens de faire quelque chose de bien et qui sont retrouvées à gérer une misère noire de façon, en étant incompétents à la gérer et qui finalement rejoignent un peu le discours des élites blanches en disant si les noirs sont pauvres, c'est de leur faute. Et ça, je trouve que c'est intéressant quand même ce qu'elle montre, l'échec de cette... Comment dire, cet échec, cette récupération, je ne sais pas comment le qualifier, mais ça c'est pas mal parce qu'elle part, et ça je trouve que c'est intéressant, elle part justement, et c'est important que tu aies rappelé le contexte, elle part de l'élection d'Obama en disant maintenant qu'on a un président noir, il y a plein de gens qui vont commencer à nous dire qu'est-ce que vous voulez de plus ? Vous avez gagné. Vous avez gagné, il y a des acteurs noirs célèbres richissimes, il y a des footballeurs noirs richissimes, il y a un président noir, vous avez tout gagné. La lutte, on est dans une société finalement où d'indifférence à la race. Et je pense que c'est pas pour rien aussi que le bouquin est publié sous Obama, parce qu'elle va dire, c'est son point de départ, elle dit qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que le mouvement Black Lives Matter surgit alors qu'on pourrait penser qu'on a tout gagné.
Et à partir de là, en fait, elle remonte le fil et effectivement, elle montre comment en fait toutes les illusions qui ont pu accompagner, à la fois l'intégration d'une minorité d'Afro-Américains aux États-Unis, intégration économique, dans les médias, le sport, le spectacle, etc., intégration politique aussi, là qui est assez réelle, parce que ça, c'est peut-être un point d'ailleurs qu'un des plus les plus traités le plus rapidement, je trouve, parce qu'elle parle effectivement de la manière dont le mouvement des droits civiques a fourni un certain nombre d'élus, de cadres du Parti démocrate et aussi conservateurs d'ailleurs, et comment ils sont intégrés notamment à l'échelle des appareils municipaux, mais aussi du Congrès américain, des partis constituant des groupes de pression et des groupes de députés très importants. Et évidemment, ça c'est la belle histoire, quoi. Comme quoi, il y aurait une continuité par rapport au monde des droits civiques. On aurait d'abord supprimé les lois de ségrégation, puis ensuite un droit de vote sérieux, puis ensuite intégré l'élite politique, économique et du showbiz américain. Et évidemment, l'acmé de tout ça, ça aurait été l'élection d'un président noir. Comme si on avait comme ça une espèce de continuité heureuse, de la condition noire aux États-Unis depuis le moment des droits civiques. Et évidemment, Black Lives Matter, c'est juste montrer que, en fait, il y a tout faux, quoi. Si on lit ça, il y a tout faux. Et je trouve que dès le départ, en fait, moi, ce qui m'a intéressé aussi, c'est que elle aborde le truc dans son côté concret, quoi. C'est pas que des questions de symboles ou statistiques. Il y a beaucoup de chiffres, beaucoup de statistiques. Il y a énormément d'informations. Je trouve ça assez impressionnant.
Oui. En même temps, c'est très lisible. C'est très lisible. C'est pas du tout quelque chose. Elle vous assomme pas avec des tableaux statistiques, mais elle a l'art de choisir des statistiques extrêmement parlantes, extrêmement choquantes. Enfin, des trucs où vous vous dites ok, c'est pas possible. Par exemple, je savais pas ça avant de lire son bouquin. Voilà, si vous êtes aux États-Unis, un noir sans casier judiciaire a aussi peu de chances de trouver un job qu'un blanc avec casier judiciaire.
Par exemple.
Ce genre de fait, quoi.
La première stat qui me frappe dans les pages 14, les États-Unis représentent actuellement 5% de la population mondiale, mais 25% de la population carcérale mondiale. Plus d'un million d'Afro-Américains sont en prison et leur taux d'incarcération est 6 fois plus élevé que celui des Blancs. Donc là, on part sur un fait assez direct. Moi, il y a plein de choses qui m'ont rappelé le bouquin de Loïc Vacan, Punir les pauvres. C'est-à-dire que c'est aussi une particularité du livre, c'est qu'elle approche ça effectivement sur la question du statut de la communauté noire, si on peut parler de communauté, les inégalités économiques. Essentiellement, les inégalités matérielles, les inégalités face à la justice, les inégalités ensuite en termes de représentation. Mais elle reste vraiment sur ces questions matérielles, quoi. Les difficultés, les taux de criminalité, de chômage, discrimination à l'embauche, à l'emploi. Elle montre aussi comment la crise de 2008 a frappé tout particulièrement... tout le monde, tous les pauvres américains, mais particulièrement les pauvres noirs. Et en même temps, elle a toujours le souci d'aborder ça de manière, effectivement, avec des outils qui sont ceux des sciences sociales. C'est-à-dire d'aborder ça en termes économiques, de conditions de vie, de conditions matérielles.
D'accès à l'éducation, d'accès à la santé.
Et de lier ça, en fait, à l'espèce d'état de catastrophe dans lequel se trouve... tout ce qui reste de l'État-providence américain, d'une certaine manière. Elle montre qu'on a aussi que les 30-40 ans de politique néolibérale et de déconstruction systématique des services d'assistance sociale, de services publics, de tout ce qui atténue les inégalités, le fait que tout ça ait été balayé de manière systématique par les démocrates comme par les républicains pendant 40 ans, eh bien... qui s'accompagne d'une pénalisation de la pauvreté, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, les pauvres qui sont plus soutenus, on les fout en tôle, et on les fout en tôle. Une augmentation, à un moment, il y a un chiffre qui est complètement sidérant. Elle part d'une augmentation depuis 80, une augmentation de 800% de la population carcérale. Si on rapporte ça en termes de statistiques, ça donne ça. Ça, c'est des thèmes qui sont déjà, qu'on a déjà eu l'occasion de discuter, hein, dans punir les pauvres de vacants. Ils montrent ça, comment la main droite de l'État, c'est-à-dire les flics et les prisons, remplacent l'ancienne main gauche, c'est-à-dire les services publics, le chômage, tous les systèmes de protection sociale. Et qu'en démantelant la main gauche, évidemment, la main droite.
Vacants montrent aussi que l'argent, en fait, quand tous les gens disent ça coûte trop cher les écoles, ça coûte trop cher. Ça. En fait, l'argent, il le transfère pour les prisons.
Voilà. Alors, pas que, parce qu'il y a aussi les allégements d'impôts et tout ça.
Bien sûr.
Mais... et c'est quand même pas rien. Voilà.
Mais globalement, les prisons coûtent plus cher que les écoles et il y a des transferts de fonds. Ouais. En réalité, il n'y a jamais moins d'État. Il y a toujours plus d'un État différemment organisé. Mais bon, ça, c'était chez Vacan.
Et ça, je trouve ça très, très, très intéressant aussi, la manière dont elle, en fait, elle garde ce cadre d'analyse-là qui est général et elle montre effectivement comment, du coup, ça empire et comment ça fout le feu, effectivement. Sur les conditions d'existence matérielle des Afro-Américains qui subissent tout comme les pauvres blancs mais en pire. Voilà, en gros. Donc ça c'est une approche importante parce qu'en plus elle a comment dire, c'est pas pour minimiser effectivement ce que subissent les noirs aux États-Unis, mais elle garde toujours aussi la possibilité éventuellement de créer des fronts un peu unitaires quoi, et ça c'est aussi un point,
c'est
un
son
point
objectif
important.
Même
c'est son objectif premier.
C'est dans le cauchemar américain, ceux qui sont tout au fond, c'est les noirs américains.
C'est ça.
Ça c'est clair. Et le truc c'est qu'après elle va resituer cette situation au fin fond du cauchemar américain par rapport à tous ceux qui subissent aussi ce truc-là, mais comme elle est aux États-Unis, elle ne peut pas partir directement d'une base, comment dire, presque socialiste. Et donc, il y a aussi, il ne faut pas oublier non plus que, par exemple, le mouvement Black Lives Matter a suscité tout un tas d'oppositions, souvent relativement, soit stupides, soit politiquement orientées, du type All Lives Matter. Non, ils ont raison, ils ont tort, toutes les vies comptent. Comme si Black Lives Matter, ça pouvait se traduire par seuls les vies noires comptent, ce qui n'est pas le cas. Comme s'il y avait une espèce de symétrie aussi entre la façon dont les policiers traitent les uns et les autres, les blancs et les noirs. Et donc, je pense qu'il y avait aussi tout un tas de trucs, elle était obligée de lutter contre des pertes de son bouquin. Contre le rêve américain, le récit enchanté de l'accession des Noirs américains aux responsabilités, à la célébrité, à l'argent, à la réussite, à tous ces trucs-là. Contre tous ceux qui vont dire, c'est corollaire du premier, non, il n'y a pas de racisme, il faut arrêter de faire un truc du genre « seuls les vies des Noirs comptent ». Donc elle est obligée au départ d'insister à mort sur la situation absolument épouvantable des Noirs américains, et ensuite elle élargit. Et je trouve que de ce point de vue-là, son bouquin est super bien construit.
Oui.
C'est vraiment une machine de guerre. et elle commence. C'est des trucs. C'est ça. C'est.
Bah là, il y a quelques chiffres.
Là, je peux le citer. Depuis l'investiture d'Obama, le revenu médian. Revenu médian, c'est quand vous avez 50% de la population. Le revenu médian des Noirs a plongé de 10,9%. Pour atteindre 33 500 $ par an, contre une diminution de 3,6% chez les Blancs, pour un revenu médian de 58 000 $. La pauvreté entraîne une série d'autres problèmes sociaux. 26% des foyers noirs sont en situation d'insécurité alimentaire, euphémisme officiel pour désigner la faim. 30% des enfants n'ont pas assez à manger. 25% des femmes n'ont pas de couverture santé. 65% des cas de sida nouvellement diagnostiqués concernent les femmes noires. Dans les grandes villes, ces dernières ont autant de chances d'être expulsées de leur logement que les hommes d'être incarcérés. À Milwaukee, Wisconsin, où elles ne représentent que 9% de la population, 30% des personnes expulsées sont des femmes noires. Les effets en cascade du racisme et de la pauvreté s'abattent sans relâche sur les villes afro-américains pauvres ou prolétaires. Et la pauvreté est loin d'être la seule facette des écarts de richesse croissants entre afro-américains et blancs. Au cours des 25 dernières années, les inégalités de patrimoine par foyer ont triplé. Aujourd'hui, le patrimoine médian des ménages blancs, par opposition aux revenus, Donc, vous avez votre salaire et puis vous avez ce que vous possédez. C'est le patrimoine et le revenu. Donc, le patrimoine médian donc, des ménages blancs est de 91 000 $ contre 6 500 $ pour les foyers afro-américains. Alors après, l'autre aussi, c'est une enquête de 2010, le patrimoine médian des femmes blanches célibataires est de 41 500 $ à comparer avec celui surréaliste des femmes noires célibataires, 100 $. Donc là, on a quelque chose qui est quand même... Alors, ce sont entre guillemets que des chiffres, et certains philosophes nous apprennent que les chiffres ne nous font pas penser. Mais malgré tout, c'est des chiffres qui sont.
Le dernier chiffre, il est extraordinaire. C'est-à-dire sur le patrimoine médian des femmes noires célibataires, c'est à relier aussi avec la statistique d'avant, c'est-à-dire le nombre d'hommes noirs incarcérés.
Oui.
Évidemment. C'est-à-dire que là, c'est là où effectivement c'est très fort aussi, c'est que ça fait système son analyse là. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un moment, le chiffre est calculé, elle dit en fait, si on comptabilise le nombre d'hommes noirs incarcérés, on arrive en fait, un homme noir sur 6 de la communauté se trouve en tôle. C'est-à-dire que c'est autant de pères de famille, de grands frères, de soutien de famille, de revenus potentiels, etc. Et c'est autant de femmes célibataires noires, en plus statistiquement, par rapport aux autres communautés américaines. Et ça, c'est le réseau de chiffres, si tu veux, qu'elle fournit, qui, au bout d'un moment, effectivement, est assez...
éloquent.
Ah oui, éloquent et plus qu'efficace. Et ça, je trouve que c'est vraiment le point fort du bouquin. Et la manière dont elle reprend finalement des analyses qui ont été posées d'une certaine manière, ou des méthodes qui ont été posées justement par les Panthers, les Black Panthers. Et quand elle parle au début du bouquin, effectivement, de la manière dont la fin des années 60 a permis de poser cette analyse en termes de racisme institutionnel.
Ouais, il faut en parler.
C'est ça le point important. Alors ça, évidemment, c'est dans le bouquin Black Power, fondateur, effectivement, du
révolutionnaire noir Stokely Carmichael, et sociologue Charles Hamilton. Alors, le racisme institutionnel, je vous lis un passage, parce que je trouve que c'est vachement intéressant. Le racisme institutionnel ou structurel peut être défini comme l'ensemble des politiques, des dispositifs, des pratiques, des institutions publiques et privées qui se traduisent par des taux de pauvreté, d'expulsion, de criminalisation, de maladie et de mortalité plus élevés chez les Afro-Américains. Surtout, c'est le résultat qui compte et non les intentions des individus impliqués. Le concept de racisme institutionnel reste le meilleur outil pour comprendre comment les Noirs peuvent subir de telles privations dans un pays aussi riche que les États-Unis. Il est essentiel pour répondre aux accusations qui rendent les Afro-Américains largement responsables de leur sort. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, vous avez tout le développement d'un concept de culture de la pauvreté. On va revenir après là-dessus, parce que ça fait déjà très longtemps qu'on parle, et on va mettre un peu de musique sympa, histoire de vous délasser.
My son to Vietnam. He give me second class houses, second class schools. Do you think that all colored people are just second class fools? Mr. Backlash, I'm gonna leave you with the blues. Yes, I am. When I try to find a job, earn a little cash, all you got to offer is your mean old white backlash. But the world is big, big and bright and round, and it's full of other folks like me who are black, yellow, beige and brown. Mr. Backlash, I'm gonna leave you with the blues. Yes, I am. We'll be right back.
exactly where it's at, so they'll have no place to hide. So Mr. Backlash, Mr. Backlash, hear me now. I'm wanting you, yeah, somehow, some way, yeah. I'm gonna leave you with the blues.
Bonsoir, vous écoutez Radio Libertaire 89.4. C'est la radio sans Dieu ni maître ni publicité de la Fédération anarchiste, et c'est Jeudi Noir qui se poursuit pour cette deuxième partie. La première partie était trop longue, on parlait trop. Consacrée donc à un livre de Kianga Yamata Taylor, Black Lives Matter, publié chez Ago. Donc Kianga Yamata Taylor, elle n'est pas très connue en France encore. Et donc c'est une chercheuse et militante afro-américaine qui a publié donc ce bouquin aux États-Unis il y a 2-3 ans, je ne sais plus trop quand. Et voilà, donc on pense que c'est un excellent livre. Vous venez d'entendre un morceau de Nina Simone, de Blacklash Blues. Et juste après, c'était encore un passage de cette réunion du mouvement politique américain, afro-américain, Black Lives Matter. Alors je vous explique un petit peu le contexte. Normalement, donc c'est une réunion qui est organisée avec la police locale, et les habitants sont censés faire part de leurs doléances, et les responsables de la police sont supposés expliquer pourquoi il y a eu ces dysfonctionnements et promettre que ça ira mieux. Sauf que quand la police tue des gens, c'est difficile de parler calmement, d'autant que les militants de Black Lives Matter n'ont pas le droit de s'exprimer comme ils le font. Et donc pour éviter d'être réduit au silence par la police, quelqu'un commence à prendre la parole dans les formes et ensuite entame un discours quasi politique de protestation, de rappel des faits, des meurtres. Et les autres militants de Black Lives Matter se réunissent autour de lui. Et là se forme ce qui s'appelle le People Mic, People Microphone. C'est le truc où justement quelqu'un parle et comme on a coupé son micro éventuellement, les autres répètent ce qu'il vient de dire, histoire qu'il se fasse entendre et que la police puisse pas mettre la main dessus. Et donc ça donne quelque chose qui est assez puissant en fait, à voir, à écouter. C'est ce que vous avez pu entendre là, et donc c'était Shut the Fuck Up, et c'est justement...
Au passage, c'est une technique de conte aussi, traditionnelle.
Oui. Ouais. Hein? Ça je savais pas, mais là l'idée c'était justement de dire aux responsables de la police de la ville en question, fermez-la, vous êtes des meurtriers limite. Enfin pas limite d'ailleurs, parce que vous avez des gens qui disent, voilà, ma petite sœur a été assassinée, elle a pris une balle dans la tête alors qu'elle était en train de faire ses courses. Enfin, c'est des histoires de cet ordre. C'est pas du tout, vraiment d'une violence terrible.
Bah, peut-être un chiffre là, qu'on disait, parce que c'est centré quand même sur cette question des violences policières, mais qui touche encore une fois toute la population américaine, mais tout particulièrement la communauté noire.
C'est-à-dire que vous avez pas mal de sacs à merde qui ont un spécial dédicace à Ben, qui ont qui ont dit, regardez, les policiers tuent plus de blancs que de noirs, sauf que ils ne rapportent jamais ce chiffre à la population totale. Ce qui fait qu'en proportion, en réalité, si vous êtes noir, vous courez beaucoup plus le risque d'être tué par la police que si vous êtes blanc.
Le risque est calculable. Il est calculé dans le bouquin. Entre 15 et 40 ans, le risque est 20. Une fois plus élevé pour un homme noir que pour un blanc. 21 fois plus. Voilà. Le risque de mourir, voilà. Et donc, pour les grands chiffres, pardon, effectivement, pour les grandes masses, pour le coup, il rappelle ça, on est page 223, la police états-unienne tue plus que toute autre force publique des pays dits développés. En seulement 7 ans, selon les statistiques du Bureau de la Justice, on dénombre 7427 tués en 7 ans. Hein, ça fait quand même plus de 1000 par an. C'est un chiffre ahurissant. La même étude conclut que la police tue en moyenne 928 personnes par an. Par comparaison, 58 soldats états-uniens ont péri en Irak en 2014. Au Canada, en 2014, la police a fait 78 victimes, rapportées aux 928. Hein. Entre 2010 et 2014, la police anglaise a tué 4 personnes sur 4 ans. Entre 2013 et 2014, la police allemande n'a fait aucune victime. En Chine, pays 4 fois et demi plus peuplé que les États-Unis, 12 personnes ont été tuées par la police en 2014. donc 90 fois moins qu'aux États-Unis. Donc effectivement, sur les grandes bases, c'est des chiffres qui sont proprement ahurissants. Et on est sous la présidence Obama. Hein? Donc là, effectivement, c'est là où on voit l'espèce de violence effectivement inouïe en fait de la répression policière, enfin de la répression du contrôle policier en fait hein, aux États-Unis. Hein. Bon, mais ça c'est pour voilà, les grands chiffres et voilà rapportés aux Noirs, ces chiffres sont proportionnellement encore plus délirants quoi, voilà par rapport à la population. Donc ça qu'il faut avoir en tête. Peut-être on disait deux mots sur l'espèce de moment historique, la manière dont le racisme institutionnel tel qu'il avait été posé comme outil d'analyse et comme outil de revendication aussi par les Black Panthers notamment et les franges les plus politisées du mouvement des droits civiques, comment ce type d'analyse là avait en fait été balayé politiquement au cours des années 70 et après par une autre manière de poser le problème qui était celui de l'indifférence à la race. Alors tout à l'heure, tu as cité effectivement la manière dont elle définit ça. Racisme institutionnel, ça veut dire que on ne s'intéresse pas aux intentions des gens, on s'intéresse effectivement aux statistiques, aux résultats, aux effets.
Aux effets d'un système politique, économique et social.
Voilà, rapport, et ce qui permet de comparer effectivement ce que subit une partie de la population, les Noirs en l'occurrence, par rapport au reste de la population. Et là, évidemment, c'est les statistiques qu'on a évoquées tout à l'heure. Il n'y a pas photo. C'est flagrant, en quelque sorte. Et elle montre comment, finalement, l'efficacité de cette manière de poser le problème et des revendications du coup, politiques qui ont été portées par les mouvements radicaux noirs à la suite des droits civiques, comment ce truc-là a commencé à saouler très, très sérieusement les dominants blancs, voilà, pour dire les choses, et comment les dominants blancs, démocrates d'abord, sous l'impulsion de Carter, puis républicain avec Nixon, comment les différents présidents américains et les partis politiques qu'il y a derrière ont tout fait pour en quelque sorte dégager cette manière de poser le problème de la race et remplacer ça par un autre problème qui était celui des intentions des acteurs, c'est-à-dire ne parler de racisme que si on avait une intention raciste avérée en quelque sorte de la part, donc qui revient à individualiser les problèmes, ce qui revient à rendre beaucoup, beaucoup moins détectable et beaucoup moins
psychologisé.
Ça rend beaucoup moins détectable aussi les effets du racisme, et puis ça en fait à chaque fois des questions de dérive individuelle en quelque sorte. Alors il y a un extrait, là, elle en parle, page 116, d'un discours de Nixon de 71 qui, pour le coup, je trouve, montre bien la stratégie quoi, délibérée de dégager toute analyse un peu globale de la question du racisme pour remplacer ça par une approche individualiste de ça. Alors je lis ça rapidement, donc on est page 116. Le but de cette administration, il parle de la sienne, hein, donc du gouvernement américain, est de construire une société libre et ouverte. J'emploie les mots libre et ouvert dans un sens précis. La liberté comporte deux éléments principaux, le droit de choisir et la capacité de choisir. De la même manière, une société ouverte, c'est une société où les choix sont ouverts et dans laquelle l'individu jouit d'une mobilité suffisante pour s'en saisir. Une société ouverte n'a pas besoin d'être homogène, ni totalement déségrégée. Plusieurs communautés peuvent y coexister. Dans une société ouverte, c'est la mobilité qui compte, le droit et la capacité de chaque individu à décider pour lui-même où et comment il veut vivre, qu'il évolue dans une enclave ethnique ou dans une société plus large, ou comme beaucoup, dans les deux à la fois. Notre diversité culturelle nous enrichit, la mobilité est ce qui nous permet d'en profiter. Au lieu de prendre les décisions à la place des autres, nous voulons que chacun ait à la fois le droit et la capacité de choisir pour lui-même et la mobilité qui lui permette de s'élever. Pourquoi c'est intéressant dans cette affaire-là? Parce qu'en fait, il me semble que là, on a... maintenant, on a été rabâché à longueur de temps par ça. Mais on a la base de l'efficacité du discours néolibéral qui se met en place à partir des années 70. C'est-à-dire que le but de l'État n'est plus de régler les problèmes d'inégalité structurelle de la société. Le but de l'État, c'est de donner à chaque individu une égalité des chances théoriques pour réussir dans la vie. Voilà. Ça veut dire que maintenant, le seul but de l'État, ça va être ça. Ça va être de faire en sorte que chaque individu ait, théoriquement, le même type de chance pour accéder à la réussite, définie comme réussite économique, essentiellement professionnelle, etc. Mais en tout cas, le but de l'État n'est plus de corriger les inégalités. Et en fait, c'est la fin du programme de l'État-providence, ou de ce qu'on a appelé l'État-providence, qui n'est pas la panacée, je veux dire, personne ne dira ça, mais qui a posé des systèmes de protection sociale, qui a
développer des services publics comme jamais ça s'était trouvé auparavant, qui a une histoire longue aux États-Unis parce que ça remonte à avant la guerre.
Qui fait que Kiyonga Yamata Taylor cite des discours de Johnson, le président qui avait remplacé Kennedy, et des discours de Johnson qui sont beaucoup plus à gauche que ceux d'Obama.
Ah, bien sûr.
Et c'est l'effet de contraste est voulu, le cherche à fond, mais. C'est marrant parce que là, on voit les différences d'époque aussi. C'est-à-dire, vous avez un président blanc, bourgeois, qui veut sauver le capitalisme, qui craint une révolution noire et qui, par conséquent, fait des discours où il reconnaît finalement l'existence du racisme institutionnel, qui est à l'origine d'un rapport, qu'il n'arrête pas de citer, le rapport Kerner, qui est un rapport où il dit, en gros, quelle est la cause de la pauvreté des Noirs ? C'est le racisme des Blancs.
Voilà.
C'est le racisme blanc.
Mais clair, net et précis, c'est un rapport gouvernemental.
C'est un rapport gouvernemental, effectivement, dans les années 60.
Exactement.
Et puis après, elle met en regard un discours d'Obama qui dit, nous ne voulons plus d'excuses. Tout le monde se fout de savoir si vous avez été malheureux petit. Maintenant, ce qui compte, c'est de manger tout le monde et de réussir. Parce que les Chinois, ils ne vous demanderont pas si vous avez été malheureux quand vous étiez petit. Et l'effet de contraste entre les deux époques est assez saisissant.
C'est saisissant. Et elle donne des éléments qui sont là aussi bien tapés de compréhension de ça. Comment on passe effectivement d'une analyse où le rôle de l'État, il est admis pour tout le monde que l'État est là pour corriger les inégalités, pour intervenir, pour lutter contre la pauvreté et contre le racisme, puisqu'on a quand même des rapports officiels à destination du président qui soutiennent ce type d'orientation-là. Comment on est passé de ça à, au contraire, une administration, un gouvernement qui ne veut plus entendre parler que de réussite individuelle et qui va limiter du coup le rôle de l'État au maximum, donc ce qui va permettre évidemment de supprimer les services publics, de privatiser les plus rentables, etc. etc. Bon, eh bien, l'élément qu'elle donne, alors on est juste avant, elle montre en fait qu'il y a une espèce de, comment dire, de panique d'une certaine manière des élites américaines à la fin des années 60 du fait de la mobilisation du mouvement des droits civiques. Alors c'est évidemment le mouvement pour l'égalité, l'égalité des races, mais l'égalité, voilà, en termes de pas simplement l'égalité des votes et la fin de la ségrégation, mais aussi une égalité effectivement matérielle avec cet outil justement du racisme institutionnel là qui permet de poser les problèmes. Ça a été aussi l'opposition à la guerre au Vietnam, ça a été aussi le développement des mouvements gays et lesbiens, etc. Donc on a un mouvement, et puis une opposition politique extrêmement forte. Et alors là, elle cite, moi, je trouve, c'est aussi des documents hyper intéressants, la page 113, c'est une enquête qui a été faite par un journaliste du New York Times, qui s'appelle, une enquête qui s'appelle Ethics and Profits, The Crisis in Confidence in American Business. Alors, c'est quoi ? C'est une enquête qui est faite auprès du patronat américain. Les deux journalistes interrogent 360 cadres dirigeants anonymes des plus grandes entreprises du pays sur leur vision de la santé des affaires et de la libre entreprise. On est en 74-75. Voilà. Donc, on est au moment là, du tournant de Nixon là, que j'évoquais. Alors donc il s'agit des grands dirigeants américains, et ces dirigeants font état d'une large palette de sentiments allant de l'inquiétude au mépris vis-à-vis de la grande masse de la société. Je cite, extrait. Le système capitaliste américain vit ses heures les plus noires, note un dirigeant, on est en 74. Il vit ses heures les plus noires, c'est le cas de le dire. Si nous n'agissons pas maintenant, nous assisterons à notre propre perte et ça deviendra une social-démocratie de plus. Point. Un autre se plaint du rôle du Congrès et fait valoir que les grandes entreprises devraient gouverner le pays. Deux points. C'est à nous de décider ce qui doit être fait, et non à un parlementaire patenté prêt à toutes les compromissions pour être réélu. Fin de citation. Il se demande si la démocratie n'est pas allée trop loin aux États-Unis. Deux points. Est-ce qu'on peut encore se permettre le principe « un homme, une voix » ? Citation. Hein. Dans tous les pays capitalistes, ce principe a ôté tout pouvoir au monde de l'entreprise depuis la Seconde Guerre mondiale. Fin de citation. Certains espèrent même un électrochoc qui sortira le public de sa dépendance aux dépenses sociales. Deux points. Vous voyez les guillemets. La récession y rétablira un sain respect des valeurs civiques comme l'a fait la dépression. Serait mieux si on laissait la récession s'abattre de façon plus dure pour qu'on retrouve la sobriété. Il nous faut une récession brutale. Point, fin de citation.
Alors là, moi j'aimerais bien un électrochoc du patronat compris de ses subventions, mais bon, ça c'est autre chose.
Mais c'est éclairant, quoi. C'est éclairant. Bon, c'est-à-dire effectivement, on a effectivement une espèce de panique des élites économiques américaines et qui va ensuite effectivement chercher à tout prix, à dégager le consensus qui date d'avant-guerre sur effectivement la mission, en gros, mission stabilisatrice des inégalités de l'État en général. Et évidemment, ceux qui vont prendre ça de plein fouet et en pleine poire, c'est les Afro-Américains.
Oui, parce qu'en fait, on passe de Johnson, donc que je vous citais, le président américain des années 60, qui justement parle des injustices historiquement accumulées, constituées à l'égard des Noirs américains. Et on passe de ça, dans les années 60, à peine 20 ans plus tard, finalement, à Reagan, qui parle de la reine des allocs, qui, ce n'est pas dit, mais c'est sous-entendu, est noir, et qui vit, on ne sait trop comment, grâce aux bons d'alimentation, grâce au ceci, grâce au cela. Et c'est assez... assez déprimant. Mais en fait, de voir cette espèce de dégringolade totale dans le discours politique.
C'est une espèce de voilà, on tire à boulet rouge et en permanence sur tout ce qui ressemble au fond aux missions sociales de l'État, voilà, de l'État providence, et on remplace ça par des flics. Voilà, et en remplaçant par des flics, et on se retrouve effectivement avec une population complètement contrôlée, sous contrôle policier. Hein. On en dira deux mots peut-être après la pause, notamment y compris comme dans ses financements publics à l'échelle des municipalités.
Voilà, donc José nous a sélectionné encore un morceau sympa.
It's no more colonialism, it's colorism. I need the people to understand that it seems like all around the world that people are living in a color code system. A system they call colorism. Colorism, when you identify yourself as a color. We're living in living colorism. I wanna bleach my skin milky, silky, and diamond. So I can have the power dressed like a white man. It's hard to look gold platinum with dark skin. Cause light skin is in and white skin is winning. I wanna bleach my skin milky, silky, and diamond. So I can have the power dressed like a white man. It's hard to look gold platinum with dark skin. Cause light skin is in and white skin is winning. Grammys and Oscars and Tony Awards. People like Whitney Houston opened up doors. I wanna be a legend like Michael Jackson. If it don't matter if you black or white, white I skin. In USA, whites experience no racism. And the KKK is not terrorism. Pro black lives matter, so it don't seem to matter if I bleach my skin and become trans Caucasian. Let him without sin throw the first rock. You cannot knock, so pass the Clorox. Now watch me rub it in till I'm bleeding. Beauty is pain, with no pain, there's no gain. I wanna bleach my skin milky, silky, and diamond. And live in color. So I can have the power dressed like a white man. And live in color. It's hard to look gold platinum with dark skin. And live in color. Cause light skin is in, white skin is winning. And live in color. Now that I'm white, I wanna claim the melanin that was in my skin from the beginning of origin. Hoteps calling me the devil, saying that I hate myself and I mutilated myself. But why would I hate myself when I have knowledge of self and the wisdom of humanity? And notably, I understand nationalities, person of all breeds, colors, and creeds. I'm unchained and free, enjoying the birds and the bees, inhaling a breeze, exhaling negativity. While embracing darkness, balance I harness. I'm beautifully tarnished, refurbished, spit polished by trials. Since a child, I've been gal, watching problem foul in my garden, wading the river now. A long road, time doesn't make a sound, but digits still round to the closest heroin horses, merry-go-round. Life is like a playground, marked by nouns, person, places, and things, ladder shoots and swings. Must we color code every accursed human being, even the elites, power press while stressed and feel powerless. People standing on the outside projecting prejudice, notions with little to no understanding of energy motions. I wanna bleach my skin milky, silky, and diamond. And live in color. So I can have the power dressed like a white man. And live in color. It's hard to look gold platinum with dark skin. And live in color. Cause light skin is in and white skin is winning. And live in color. Why be white or black when I can be blue and enforce my will and impose my will? Grab life by the wheel in charge. Be a sergeant, a charger. Stop a car, trigger pun, cockfire. Cause I'm large and in charge. Big Batman blue. I do what I want to and answer the who. Nobody, because I menace the societies with cold malice, cold called justice. Ghetto folks say I'm bullying the poor, but that's phony folklore that the judges will surely ignore. Why be white or black when I can be blue? But the fact is, I'm me. Who are you?
Bonsoir, vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchie sans Dieu ni Maître ni Publicité. Et là, vous venez d'entendre donc un morceau de Lucie, Colorism, et qui était suivi, donc Lucie à l'UCI, qui était suivi donc de la bande son d'une vidéo de protestation du Black Lives Matter, du mouvement, et donc là ils ont repris, c'est José qui me l'a appris, un slogan de foot américain, de fan de football américain, donc je crois que nous allons gagner. Et nous vous présentons un livre de Kianga Yamata Taylor, publié récemment, enfin traduit et publié récemment chez Agone, qu'ils ont intitulé Black Lives Matter, donc les vies noires comptent. Et on vous présentait un petit peu les enjeux dans l'Amérique actuelle de ce bouquin, et par rapport justement à l'évolution de la condition des Afro-Américains, qui, contrairement à ce qu'on pourrait croire ou espérer, ne s'est pas tant amélioré que ça.
Donc, elle a empiré nettement,
et en particulier au niveau des politiques publiques et même du discours politique en règle générale.
À tout point de vue.
Nombre de tués, nombre d'incarcérés, voilà, tout a empiré. Et voilà, c'est pas parce que vous mettez un président noir à l'Assemblée que. Enfin, un président noir à la Maison-Blanche. Que vous avez moins de racisme dans la société américaine. Ça peut même être le contraire en réalité. Donc on voulait parler de quoi déjà dans le bouquin là maintenant ?
Il y a un point, effectivement, le cœur, c'est ce qu'on disait juste avant la pause, c'est que c'est quand même centré sur effectivement la question des répressions policières. Une analyse effectivement globale des conditions de vie, ce que tu disais là. Mm-hmm. Et effectivement, ce qui met le feu aux poudres régulièrement et à chaque fois, c'est effectivement les violences policières et les meurtres.
Enfin, les meurtres policiers plus que les violences. Ouais.
Les deux, quoi. Voilà. T'as effectivement, t'as une violence policière qui est quotidienne, qui est permanente et effectivement.
Je voulais parler des amendes, ouais.
Voilà. Et oui, voilà. Et c'est un point qui est aussi assez fascinant parce que c'est. Moi, encore, le bouquin, je le trouve extrêmement brillant, extrêmement instructif sur la société américaine au sens large. Ça, il faut le dire quand même aux auditeurs, parce que c'est centré sur la question noire, mais ça va bien au-delà. Ça balaye effectivement toute la société américaine, son histoire aussi depuis les 40 dernières années. C'est ultra informé. Ultra passionnant, quoi, vraiment, faut le dire. Et notamment sur ce qu'on disait tout à l'heure, cette espèce de mouvement de balance là, entre le démantèlement systématique et méthodique de l'État social, des services publics, d'un côté, et d'autre part, le renforcement du contrôle policier et pénitentiaire, sécuritaire, on va dire, au sens très très large. Elle développe des choses aussi sur le fonctionnement des municipalités américaines, qui sont c'est juste affligeant. C'est-à-dire qu'elle montre que, notamment dans les villes avec une forte communauté noire afro-américaine, il y a très souvent donc des élites politiques entre guillemets qui ont accédé aux responsabilités là sur les 20-25 dernières années. Et en fait, alors non seulement, en fait, c'est la double peine, je dirais, pour eux, parce que on a de la peine pour eux, un peu quand même, parce que s'ils arrivent, non seulement ils se retrouvent, ils sont piégés de partout par l'espèce d'embourgeoisement institutionnel classique, c'est-à-dire qu'en fait, ils collent à la roue du coup de dirigeants nationaux qui leur chient dessus, qui se foutent éperdument de leurs problèmes, et puis surtout, ils arrivent sur des municipalités qui, la plupart du temps, sont en faillite totale. Donc, il faut qu'ils gèrent une merde financière qui est proprement ingérable, voilà, le tout en étant coupé de leur base, en étant complètement sous tutelle morale, politique et intellectuelle de gens qui ont rien à foutre, etc. Et donc en fait ils mettent en place, c'est eux qui font, voilà, qui appliquent en quelque sorte cette espèce de politique néolibérale, sécuritaire, violente à l'égard des pauvres à l'échelle de leur commune. Et puis comment ils font pour augmenter leurs fonds ou pour aller chercher des sous, qu'est-ce qu'ils font? Ils foutent des amendes, quoi. Ils foutent des amendes notamment pour la circulation, ils foutent des amendes de contrôle, et ils foutent des amendes pour outrage à la police, etc. Et en fait, ils financent de manière très significative les municipalités là-dessus. La municipalité de Ferguson, c'est 16% du budget qui est assuré comme ça. Là, effectivement, celle où se déclenche le mouvement Black Lives Matter, 16% du budget municipal est assuré par ça. Et elle va même jusqu'à
évoquer... Sachant qu'il y a aussi un paquet de fric qui part dans les actions judiciaires pour défendre les policiers qui sont attaqués en justice à cause des gens qu'ils ont assassinés ou brutalisés. Et là, vous avez une espèce de système complètement dingue où finalement, les municipalités dépensent... parallèlement, elles sont capables, et ça c'est des trucs qu'on imagine à peine, elles sont capables de fermer 50 écoles en un an, et essentiellement dans les quartiers afro-américains. Ouais. Bim, ouais. Au revoir, 50 écoles, quartier pauvre, et on ferme toutes les écoles publiques.
Exactement.
Oh là, bon, bah, parce que peut-être qu'il faut acheter des uniformes et des flashball aux flics, quoi. Mais c'est vrai que c'est un système de financement. Et en plus, ce qu'elle nous notait, c'est que justement, les amendes, les policiers sont en gros sont stationnés à la sortie des quartiers pauvres afro-américains. Oui,
c'est du racket municipal. Enfin, c'est un racket municipal et policier. Mmh. Elle va même jusqu'à parler d'effectivement, il y a eu des affaires, et pas qu'une seule, elle en cite au moins deux ou trois, de flics qui en fait ont truqué des feux rouges pour faire en sorte de faire passer le feu rouge quand les bagnoles passaient, en fait, de manière à verbaliser effectivement les conducteurs. En fait, on est sur un truc de racket institutionnalisé. Il y a un côté. T'as presque un côté, je veux dire, Robin des Bois, moi, je trouve, dans certains trucs qu'elle évoque, c'est-à-dire que t'en arrives vraiment à des trucs comme ça. C'est-à-dire une espèce d'impôt complètement injuste, enfin voilà, complètement des allègements fiscaux massifs du côté, effectivement, des grands patrons, des grandes multinationales ou des grandes boîtes américaines, et qui sont des colossaux, quoi, des allègements de ce côté-là. Et de l'autre côté, une espèce d'ingéniosité et d'inventivité pour aller ouais, mais ponctionner. Mais,
pour aller tondre des œufs.
Pour aller tondre ça, voilà. Ouais. Tondre des œufs. Il y a ce côté comme ça, et c'est bon. Alors qu'elle met ça en perspective très bien.
Alors, je voudrais qu'on parle rapidement, parce que là, il nous reste pas longtemps. Je voudrais qu'on passe la musique assez vite, parce que il y a encore des trucs chouettes à écouter. Deux trois mots sur son marxisme, parce que ça on l'a pas tellement évoqué.
Ouais.
La conclusion,
alors,
où justement elle relie la lutte antiraciste à la lutte anticapitaliste, elle fait finalement du racisme un des piliers du capitalisme, à partir d'un argument qui est assez simple et à mon sens relativement convaincant, c'est-à-dire les plus riches, les gros capitalistes sont une minorité comment, en gros, vous avez, je sais pas, c'est combien, 400 milliardaires aux États-Unis, 40 millions de pauvres. Comment est-ce que 400 milliardaires
arrivent
au pouvoir? C'est ça, c'est 1%, arrivent au pouvoir. Ben, c'est simple, il faut diviser. Et tous les moyens pour diviser les pauvres sont bons. Donc à partir du moment où vous avez des blancs pauvres et des noirs pauvres, comment est-ce que vous allez les diviser? Ben, vous allez faire en sorte que les noirs pauvres soient un petit peu plus pauvres que les blancs pauvres. Pas suffisamment pour que les blancs pauvres puissent en avoir un peu trop dans les poches, mais assez pour que les blancs pauvres puissent se sentir menacés par les noirs pauvres en matière de position sociale, histoire de diviser pour mieux régner, un vieux principe. Et je trouve qu'à la fin elle cite Marx, elle cite Gramsci, elle cite Lénine, et en fait elle trace aussi un mouvement de continuité entre les mouvements contestataires afro-américains et le socialisme.
Bah, en fait,
et elle pense finalement qu'on ne pourra pas réformer, on ne pourra pas accéder à une société, et c'est là la subtilité peut-être. Je ne pense pas qu'on puisse accéder à une société réellement antiraciste sans mettre à bas le capitalisme. Mais il ne faudrait pas non plus penser que mettre à bas le capitalisme suffirait pour se débarrasser du racisme. Et c'est là où son analyse, et où les Français pourront peut-être, pas mal de gauchistes français pourront prendre de la graine, parce qu'elle tient bien, elle arrive bien à tenir ces aspects du débat. Ouais.
Elle est à la fois antiraciste, féministe, anticapitaliste, et elle tient effectivement, elle trouve ce point d'équilibre qui est toujours difficile à trouver, ce qu'on appelle les questions intersectionnelles, là, comme on dit, à l'intersection des différents types de domination. Elle a des perspectives stratégiques derrière, effectivement. Elle remet ça dans une analyse de classe de la société américaine de manière générale. Elle montre comment effectivement l'identité blanche sert aussi à systématiquement éluder les conflits de classe
entre blancs.
Enfin,
l'identité blanche complètement fictive.
Bien sûr, complètement fictive. Et comment effectivement, à partir de ça, et ça c'est très intéressant, du point de vue de l'électorat Trump et compagnie, parce que je veux dire, là, on est en plein dedans. Donc elle réussit beaucoup de choses. Elle est sur des revendications hyper radicales, comme tu dis, qui se défendent. En même temps, c'est pas du radicalisme, elle se paye pas de mots.
Non.
Elle se paye pas de mots, elle a une analyse assez fine, y compris des évolutions de contexte de la société américaine entre la fin des années 60 et l'émergence des Black Panthers, qui eux revendiquaient une approche anticoloniale, antiraciste dans le mouvement de décolonisation mondiale. Elle montre comment on peut plus réellement poser le problème en ces termes-là. Ce qui n'est pas inintéressant quand on compare avec certaines approches type indigène de la République en France aujourd'hui. Parce qu'il y a effectivement, elle dit bien sûr qu'il y a cet héritage colonial, en même temps la situation des Noirs aux États-Unis, c'est pas exactement quelque chose qu'on peut caractériser comme une situation post-coloniale. Donc il y a cet héritage là et en même temps il faut qu'on pense la spécificité de ça, de cette situation là. C'est assez habile, son affaire. C'est assez habile, et effectivement je trouve que du point de vue des antiracistes français, il y a pas mal de choses à apprendre là-dessus. Alors après on pourra discuter, comme tu dis, à la côté, à la fin, elle a un côté très très classique d'une certaine manière dans sa manière de poser le problème. Voilà, est-ce qu'effectivement on dit tout du racisme en rapportant ça à des questions
non.
de
c'est,
classe
c'est ce qu'elle non. Fait. Elle le fait pas.
Non, elle le fait pas. Elle le fait pas. En même temps, elle développe pas effectivement trop d'analyse complémentaire là-dessus. Elle n'est pas du tout, en tout cas, sur des questions d'analyse de type identitaire d'une manière ou d'une autre. Voilà, il y a ça. Est-ce que vraiment on peut faire l'économie de ça? C'est des questions qui sont compliquées, mais en tout cas, effectivement, la conclusion, elle est fine, elle est nuancée, elle est efficace, elle est claire du point de vue stratégique. Il y a des informations partout. Que ce soit sur l'histoire des mouvements sociaux récentes ou sur la société américaine, c'est absolument passionnant. Ouais. Donc c'est un livre qui est brillant et vivement recommandable.
Voilà. Donc c'était le livre de Kianga Yamata Taylor, Black Lives Matter, le renouveau de la révolte noire américaine, publié donc chez Agone dans la collection Contrefeu. Vous avez compris qu'on vous le recommande vivement. Voilà. À plus tard.
Choose my brothers. If there was no day or night, which would you prefer to be right? If you had a choice of colors, which one would you choose?